Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis sur RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Jacques, un citoyen on ne peut plus ordinaire qui a souhaité nous partager une chanson qu'il a créée, inspirée par la situation à Notre-Dame-des-Landes. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, notre Premier ministre, Monsieur Hérault, qui souhaite depuis d'ailleurs une quinzaine d'années, parce qu'il était maire à Nantes, créer un aéroport, alors qu'une fraction importante de la population n'en veut pas. Et donc ça s'est un peu cristallisé ces temps-ci par une opposition assez frontale, avec c'est un vaste sujet. Donc Jacques a voulu faire une chanson dessus. Bonjour Jacques.
Bonjour, salut à tous.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ma petite introduction?
Pas pour le moment, je vais d'abord vous chanter cette chanson, qui est, je tiens à le préciser, une chanson con. Et puis après, on débattra un peu de ce sujet. Donc, c'est une chanson qui aborde le thème de l'habitat précaire et des jardins et de l'autonomie alimentaire.
Quand tu veux.
Ok, on y va. On veut des habitats précaires. Habiter comme on veut. On veut dans des yourtes ou des tipis, là où à plusieurs on se sert. Ça crée du lien, on est heureux. On veut des habitats précaires. On veut reprendre les terres, manger des bons légumes qui nous font du bien. Cultiver la terre, la respecter, vivre avec les copains. On veut boire quelques bières, faire la fête de temps en temps, autour d'un feu, dans une clairière, en chantant, en dansant. On veut des habitats précaires. Habiter comme on veut dans des yourtes ou des tipis, là où à plusieurs on se sert. Ça crée du lien, on est heureux, on veut des habitats précaires. Dans vos appartes, ça pue la misère, vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça sent le stress et la poussière. Ça sent le renfermer. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger la terre des pesticides et des engrais qui ont tout ravagé. Nous, on veut vivre en collectif solidaire, avoir quelque chose à partager. On veut des habitats précaires. Habiter comme on veut dans des yourtes ou des tipis, là où à plusieurs on se sert. Ça crée du lien, on est heureux, on veut des habitats précaires. On veut réquisitionner les terres, car mes amis, l'économie ne va pas bien. Il est temps de s'unir mes frères, pour faire des jardins autour de nos habitats précaires, pour faire des jardins autour de nos habitats précaires, autour de nos habitats précaires. Pour faire des jardins.
Eh bien, merci Jacques pour en exclusivité pour RDWA, les habitats précaires. Une chanson, comme tu as dit, con, mais pas si con que cela quand même.
Merci.
En exclusivité et en direct, il faut le dire. Enfin, pas en direct, mais en tout cas, tu es en face de moi et c'est pas un disque.
Yes, en live.
Voilà. Donc alors, tu abordes tellement de thèmes. La première question qui me vient à l'esprit, Jacques, ce serait, est-ce que tu serais susceptible d'être affecté par le mythe de l'âge d'or? C'est-à-dire qu'avant c'était mieux, maintenant c'est pourri, tu vois, genre de...
Non, non, pas du tout. J'ai l'air peut-être de temps en temps désespéré, mais pas du tout. En fait, dans le fond, je suis très optimiste parce que je crois à la conscience humaine universelle et je crois que l'homme est encore qu'à son adolescence et qu'on est quand même sur la bonne voie, mais il va falloir qu'on passe des épreuves pour arriver à se réveiller. Mais je suis très optimiste dans le fond. Et beaucoup plus que certains qui me prennent pour eux, ou qui nous prennent pour des pessimistes, parce que j'estime que être optimiste dans ce monde tel qu'il est et ne rien vouloir changer, c'est être pessimiste, quoi. Voilà.
Ce serait suspect de ne vouloir rien changer pour toi.
Exactement, c'est ça.
Il y a quand même un certain nombre de symptômes autour de nous qui disent qu'effectivement, il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans la machine.
On est de toute façon dans une période charnière, donc maintenant, je pense qu'on en est certain, quoi. Et c'est à nous à faire en sorte que ça change dans le bon sens, quoi.
Mais alors justement, alors concrètement, quel serait ton premier diagnostic? Qu'est-ce que tu souhaiterais changer en premier lieu? Quelle est la racine du fruit dans le ver?
Il y a plusieurs thèmes. Je pourrais dire un truc déjà. Je crois que c'est une phrase de Malraux où le troisième millénaire sera spirituel ou ne sera pas. On peut démarrer par un truc comme ça.
Nous sommes dans un monde trop matérialiste.
Ah oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout part de là. Tout part de là. Mais ça correspond aussi à une évolution de l'humanité sur la Terre que d'ailleurs les Mayas ont décrit dans leur fameuse prophétie. Qui a eu lieu, à mon avis, c'est une parenthèse, on peut y revenir. Ça correspond à une période de ce qu'on vient de vivre, à une période de construction. Et si on part de l'âge des cavernes, avec toutes les étapes d'évolution de l'humanité, il a fallu qu'on passe par plusieurs stades de construction pour en arriver là. On sort à peine de cette époque de construction, on peut dire qu'on y est encore. Il fallait qu'on passe par là pour ce que les Mayas disent transcender la matière. Et ça nous amène quand même au confort matériel dont on avait besoin de toute façon. C'est bien d'avoir de l'eau chaude et d'avoir des logements confortables et d'avoir de pouvoir se nourrir à sa faim, etc., etc. Donc, je suis pas pour la, comment dire,
Oh, tu ne ferais pas le reproche qu'on fait souvent aux écologistes à qui on dit, oui, vous voulez nous faire revenir à l'âge des bougies dans les cavernes.
Voilà, c'est ça, c'est qu'on confond décroissance et régression, quoi. La décroissance, c'est pas ça du tout. La décroissance, c'est une idée plutôt, j'allais dire spirituelle, mais c'est pas le mot parce que ça a une connotation de suite religieuse, quoi. C'est adapter la conscience humaine à la conscience de la Terre, en fait. Voilà, c'est l'homme ne peut pas continuer à construire, à détruire la planète sans se préoccuper de ce qui l'entoure, de la nature qui le nourrit et de cette planète qui le porte. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on se rapproche. Il faut que la conscience humaine se rapproche de la conscience de la planète. Voilà, la lumière de la planète. Et on va y arriver. Je suis optimiste.
C'est pour ça que tu parles de ces maisons qui sont peut-être trop cartésiennes, trop carrées et trop poussiéreuses, qui nous coupent de cette terre, alors. Hein, tu parles de cette poussière, de ce côté lugubre des appartements modernes, peut-être trop carrés.
Oui, c'est surtout le fait de vouloir caser tout le monde dans des appartements standardisés et d'imaginer que on va tous avoir des petits studios aseptisés avec des radiateurs électriques 100% nucléaires, des maisons tout confort avec des écrans géants et etc. etc. Moi, je pense que ça, c'est une utopie, quoi. Qu'on ait un minimum de confort pour vivre très bien. Mais je pense d'abord, il y a de plus en plus de gens et de jeunes qui veulent pas de ce genre d'habitat. De toute façon, les habitats précaires, on les a déjà. On sait déjà ce que c'est. On peut pas espérer loger tout le monde dans des trucs comme ça, quoi.
Surtout qu'il y a un vrai déficit de logement. De toute façon, avant même d'interdire, je suppose que tu es au courant de cette loi Loppsi qui interdit justement de mettre la loi Loppsi, tu connais pas?
Non.
C'est la loi Loppsi 2, ou je ne me rappelle plus laquelle c'est, qui interdit justement les habitats précaires dans les communes. Les maires des communes sont censés intervenir dès qu'il y a une caravane, une yourte, et donc quelque part faire en sorte de collaborer à l'éradication des habitats précaires.
D'accord, mais je connaissais même pas cette loi.
Bon, mais c'est, en fait, c'est pas dans l'air du temps, les habitats précaires, pour l'instant. Hein. Il y a du boulot, quand même. Hein.
Ah oui, c'est sûr.
C'est là que ton optimisme me ravidait, c'est-à-dire qu'il y a des lois récentes, hein, c'est Sarkozy qui l'avait passé, je crois bien, qui interdit, justement, ces habitats précaires.
Mais ça vient du fait, à mon avis, c'est qu'un discours politique, et qu'il soit de gauche ou de droite, c'est le vieux fantasme des politiciens de construire des logements, parce que c'est le fantasme du bâtiment. Quand le bâtiment va, tout va. Et donc, ça, c'est un secteur qui crée des emplois. Donc, tous les politiciens qui se succèdent rêvent de faire des millions de logements pour relancer le secteur du bâtiment. Donc, ils se préoccupent plutôt de la relance économique. Et ils nous promettent tous des millions et des millions de logements. Et puis, finalement, personne ne fait rien. Et tous les hivers, il y a des milliers de gens à la rue et qui finissent... on ne sait où, puisque on dit que 3 demandes sur 4 ne sont pas pourvues. Donc on se demande où ils passent, quoi, tous ces gens. En fait, ils se planquent là où ils peuvent pour pas crever, quoi. Voilà,
Alors Jacques, est-ce que tu peux être un peu plus précis ? Est-ce que tu as des données ? Parce que là, tu me dis 3 demandes sur 4, mais 3 demandes sur 4 de quoi ?
Alors, 37, les demandes d'hébergement social d'urgence ont augmenté de 37%. Donc ça fait quand même énorme.
Sur l'année dernière ?
Sur l'année dernière, l'année 2012. Et donc 3 demandes sur 4 demeurent sans prise en charge. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 3 personnes sur 4 qui repartent, on ne sait pas où. Après, je ne sais pas si ça rentre dans les chiffres. Il manquerait, on dit, 1 million de logements. Et donc notre gouvernement actuel nous en promet 500 000 par an sur 5 ans, ce qui fait 2,5 millions. Donc ils sont très très généreux, mais pour l'instant on voit pas trop la couleur de tout ça, quoi.
Non, mais ils en sont à, je sais pas, même pas 300 000 par an, en fait, et ça ne couvre même pas les besoins de renouvellement, quoi.
Après on demande des trucs comme l'ouverture des campings en hiver, ce genre de trucs, et ça c'est impossible, ça marche pas, parce que justement on veut pas d'habitat précaire, d'où le thème de ma chanson, quoi.
Et à ton avis, si on autorisait plus facilement et les ouvertures de camping et les habitats précaires, c'est-à-dire la possibilité d'installer une caravane ou une yourte dans des petits coins, etc., ça pourrait fluidifier le marché du logement et permettre à un certain nombre de gens de se loger.
Bien sûr, et même si c'est momentané, et surtout en hiver, parce que c'est quand même ça le problème, c'est que tous les hivers, depuis des décennies, c'est le même problème, et toutes les années ça augmente. Il y a des gens, il y a des milliers et des milliers de gens qui se retrouvent à la rue. Alors on voit ceux qui sont à Paris, puisque les infos nous viennent de Paris souvent, ou à Marseille dans les grandes villes, mais après il y a les campagnes aussi. Il y a des milliers de jeunes qui vivent dans la précarité, sans parler de la question, en plus de l'habitat, de la nourriture. J'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui concerne l'alimentation chez les jeunes, notamment chez les étudiants, en plus, qui ne sont pas considérés comme des précaires. En France, c'est une catastrophe. Les étudiants sont sous-alimentés. Et donc les jeunes, on peut le dire, je n'ai pas peur de le dire, il y a une grande partie de jeunes qui crèvent de faim, quoi. Alors, ils tiennent le coup parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont carrément sous-alimentés en France. Donc là, on ne parle pas du tiers-monde, on ne parle pas de pays qui sont en développement, on parle de notre pays qui est quand même la cinquième puissance mondiale, quoi. Donc il y a quand même des trucs à faire. Mais toutes les années, ça recommence et puis on ne trouve pas la solution. Je n'ai pas les chiffres du Resto du Cœur, mais qui ont augmenté aussi. C'est hallucinant, l'augmentation des demandes de Resto du Cœur, quoi.
Oui, alors quand tu parlais de les nouvelles nous viennent de Paris, tu passes de temps en temps dans le Diois, je crois t'avoir déjà rencontré. C'est que tu dois être au courant quand même de cette histoire de cocoserie, d'occupation illégale de la barre de cocos qui est censée être détruite.
Oui.
Il y a une résonance locale très forte ici.
Ah oui. De toute façon, je sais que le pays Diois est très revendicatif sur pas mal
de... Il y a un déficit aussi de logements ici.
Ah ben oui, mais ça, ben de toute façon, moi je pense que le déficit, il est général, quoi. Bon, mais en même temps, l'occupation apparemment d'un immeuble là à 10, ça rentre un peu quand même dans ce qui est en train de faire notre gouvernement, c'est-à-dire réquisitionner des logements. Donc même s'il se trouve hors la loi, il rentre quand même plus ou moins dans les... Ben, plus ou moins, quoi, dans ce que le gouvernement veut faire dans sa réquisition de logements. Ils sont eux-mêmes très embêtés, notre ministre là qui s'occupe de ça, je ne sais plus si c'est Cécile Duflot ou je ne sais plus qui.
Logement, oui.
Elle est embêtée parce que les lois ne permettent pas de réquisitionner. Donc apparemment, c'est ce qu'ils viennent de faire, c'est modifier les lois pour réquisitionner des logements et s'arranger le mieux possible avec les propriétaires, quoi.
Il ne reste pas moins qu'un des fondamentaux de cette civilisation capitaliste, c'est quand même le respect du droit à la propriété privée. C'est-à-dire qu'en fait, et là j'ai entendu dire hein, que le jugement avait été fait, le jugement concernant la cocoserie, enfin l'occupation de Cocos avait été rendu et qu'ils ont jusqu'au mois de juillet pour quitter les lieux. Après, advienne que pourra, je ne sais pas quelle est leur décision. Enfin, le problème reste entier. C'est pas parce que quelques jeunes altermondialistes, gauchistes, libertariens ont occupé pendant une paire de mois un logement que le problème est réglé, tu imagines bien.
Mais bien sûr, mais c'est pour ça que ma chanson s'appelle « On veut des habitats précaires ». C'est pour aller contre ce discours politique qui voudrait nous donner des logements et qui ne les donne pas. Moi, j'ai rien contre la propriété privée. Au contraire, j'ai pas un discours aveuglément de gauche. J'ai rien contre l'argent. J'ai rien contre les riches. J'ai absolument rien contre la propriété privée. Au contraire, je suis pour la liberté d'entreprendre, notamment la liberté de se mouvoir. Qui est beaucoup plus grande aux États-Unis, par exemple, qu'ici. J'ai vécu aux États-Unis, je peux en parler, on peut en parler. Je trouve qu'on a beaucoup de restrictions dans notre pays. Et donc, pour revenir à ta question, que des immeubles occupés appartiennent à des privés qui veulent récupérer, etc. Moi, j'ai absolument rien contre, dans la mesure où on a des solutions pour se loger provisoirement. On ne demande pas plus, on ne demande pas beaucoup plus, on ne demande pas de voler les riches pour donner aux pauvres, on ne demande pas de squatter. Moi, je ne suis pas spécialement non plus pour le squat, parce que n'importe quel squatteur, s'il avait sa propre maison et s'il se faisait squatter, peut-être qu'il réagirait comme les propriétaires. Mais peut-être trouver des solutions provisoires, parce que les gens ils demandent pas plus. Après, si on a la liberté de se mouvoir et de passer d'un endroit à l'autre, pourquoi pas, quoi.
Tu connais le proverbe, hein, le provisoire qui dure. Le fait est que peut-être une des peurs qu'on pourrait avoir, c'est s'il pouvait y avoir des espèces de petits ghettos qui se créaient dans des petits coins avec plein de gens qui s'installeraient dans des espèces de campements de fortune et qui viendraient comme des chancres sur un beau paysage idyllique tel que le Diwa. Je crois que c'est ça, peut-être ça aussi. Imagine un campement de caravane qui s'enquiste dans la montagne. Je sais pas, hein, je me mets à la place des gens qui sont à la tête de communes et qui verraient développer des espèces de campements un peu underground, un peu
oui,
bizarre, sans assainissement, sans électricité, un peu des zones de non-droit. Donc tout n'est pas si simple que ça.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est justement pour ça que je milite pour la liberté de créer des habitats précaires. À partir du moment où on a le droit, où c'est plus ou moins officialisé, de pouvoir, par exemple, être logé dans des campings, fait pouvoir louer, bien sûr, des mobil-homes dans des campings en hiver. Le fait de s'installer dans des habitats précaires aussi, momentanément, pourquoi pas, ça pourrait être une... Si c'est organisé, une solution pour loger des gens, provisoirement ou pas, mais en tout cas, dans des conditions à peu près correctes. Moi, je ne suis justement pas pour l'invasion de terres n'importe où, où ça serait la pagaille. Après, il faut aussi dire un truc, c'est que c'est complètement lié aussi au jardin. Hein. Ce truc-là, c'est pour ça que ma chanson aborde les deux thèmes. C'est qu'en général, les gens qui veulent s'installer de cette façon... Ils militent en même temps pour l'autonomie alimentaire et pour la création de jardins. Si ça devient un peu possible de faire ça, si c'est un peu organisé, voilà, en général, ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là sont plutôt écolos. Là, il y a eu le festival de folk, là, ça n'a rien à voir, mais presque, à Châtillon, il paraît qu'en partant, il n'y a pas un papier par terre. Il y a 2000 personnes qui sont passées là sur le site. Ils laissent le site tout à fait propre. Il n'y a pas un truc qui traîne. C'est propre. Donc, en général, les gens qui sont prêts à faire ce genre de truc, ils ont déjà une conscience, quand même, une conscience écologique. Enfin, bon, espérons-le. C'est vrai que tout n'est pas rose non plus. Bah, il y a des toilettes sèches, ça existe, c'est écolo. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Et voilà, après, on demande quoi ? De l'eau, des points d'eau, puis une douche, et puis voilà. Mais en général, c'est des gens qui sont pas... C'est pas des anarchistes qui veulent tout casser, c'est des gens qui veulent au contraire construire et qui ont une conscience de la propreté, de la nature et tout ça, quoi.
Il y a un problème certain, il n'y a pas assez de logements et il y a des gens qui ont du mal à s'inscrire dans une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Mais ça voudrait dire que si on autorisait ce genre de logement précaire et de lotissement à durée déterminée, c'est comme si on admettait, on actait qu'il y a toute une frange de la population qui ne trouve plus de place dans cette société, comme s'il y avait deux sociétés à vitesse variable, quoi. Et ça, bon, avant que les gens admettent qu'effectivement, il y a toute une frange de la population qui ne trouve pas de place ici et qui se trouve d'autres solutions, un peu à l'arrache, quoi, un petit peu comme ça. Est-ce que tu crois que les tenants du système autoriseront ça un jour ? Enfin, il faut vraiment qu'ils progressent dans leur... conscience intérieure, en fait.
Exactement, mais on n'en est pas loin. Moi, je pense que, par exemple, il y a des ministres qui sont conscients de ça, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont aussi dans ce système-là. Et peut-être, de toute façon, la majorité de la population. Mon père, je discute beaucoup avec mon père qui a 86 ans. Il n'est pas encore conscient de ça parce qu'ils sortent d'une époque des 30 glorieuses, comme on dit, où on a construit, on a construit aussi la démocratie, on peut dire. On a construit. Ils vivent encore dans ce fantasme de la croissance et que la croissance va tout nous amener et que donc, comme on disait tout à l'heure, tout le monde va être logé, tout le monde va avoir du travail, on va tous avoir le confort, le travail, le machin. Mais pour moi, c'est du fantasme, ça. Et en plus de ça, je pense que les jeunes générations s'éloignent effectivement de plus en plus de cette idée, quoi. Parce qu'on n'est plus dans les années 70, on est dans une époque quand même qui est plus spirituel, bon, ça m'embête un peu de dire ça, mais qui est quand même un peu, l'esprit, la conscience humaine s'élève, et je pense que les jeunes générations ont d'autres aspirations, quoi, voilà. Là, je vois qu'il y a, j'ai des chiffres sur les mal logés, il y a 3 600 000 mal logés, je ne sais pas ce qu'on appelle mal logés, mais je crois qu'on peut multiplier par deux, ou on peut... Moi, je pense qu'il y a au moins 10 millions de personnes en France qui sont mal logées. Et on n'a pas parlé des vieux, parce qu'alors là, les personnes âgées, c'est ça le pire. Les jeunes, ils sont encore costauds pour résister et pour s'exprimer. Mais malheureusement, les personnes âgées qui vivent dans la précarité, alors eux, on ne les voit pas du tout. Et puis, ils ont plus la force ni de s'exprimer, ni de quoi que ce soit. Et puis, ils crèvent à petit feu dans leur trou à rats. Hein. Et puis, je pense qu'il y en a un paquet, mais qu'on ne les voit pas, quoi.
Oui, en fait, je vois que tu as tout un ensemble d'arguments qui sont assez proches du cœur. Ils ne sont pas forcément...
Merci.
Non, mais je veux dire, c'est normal de ne pas être d'accord qu'il y ait un certain nombre de gens effrois, de trouver que c'est anormal qu'il y ait des gens... qui n'ait pas de quoi manger, qui n'ait pas de boulot, c'est anormal. Tout être normalement constitué fait ce constat. Oui, mais concrètement, comment faire pour donner du travail, trouver des logements ? Et apparemment, le système n'y arrive plus, en fait.
Justement, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Si tu veux, je vais te donner quelques chiffres sur l'agriculture. C'est pour ça que c'est complètement lié, cette histoire d'habitat, et donc toute cette revendication qu'il y a autour des jardins et de l'autonomie alimentaire. J'ai lu hier dans Les Échos un article sur les jardins à Paris et tous les jardins familiaux qui se développent. On est très en retard en Europe sur beaucoup de sujets, d'ailleurs, mais... là, ça a l'air d'accélérer, notamment des jardins sur les toits. Il y a, je sais pas,
vraiment... C'est à Détroit, il y en a beaucoup. Détroit, c'est la ville. C'est une ville qui est la ville de l'automobile qui a été complètement sinistrée. Il paraît que ils sont à fond dans les jardins urbains, quoi, les toits, sur les toits d'immeubles, etc.
Il y aurait, je crois, déjà, et pourtant on est très en retard, même par rapport à nos voisins européens. Mais il y aurait déjà un truc comme. J'ai été vraiment étonné du chiffre. Il y aurait 62 hectares de jardins sur les toits à Paris déjà. Ce qui paraît énorme, quoi. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'initiatives, ça se développe. Et puis, toute cette idée aussi, donc de l'autonomie alimentaire et puis des jardins familiaux, des jardins collectifs, quoi. Les gens qui éprouvent le besoin, parce que c'est l'alimentation, mais c'est aussi le besoin de se réunir, faire les choses à plusieurs. Et peut-être la solution dont tu parlais là, peut-être que c'est ça tout simplement, c'est revenir à des choses plus simples et puis de faire les choses ensemble. Et là, ça paraît peut-être plus réalisable, quoi. Voilà, moi, il y a un truc important, c'est que pourquoi un bloc au niveau de l'agriculture et tout le développement de tout ça, c'est qu'on est la deuxième puissance mondiale agricole. Donc, l'agriculture en France, c'est très important. On est derrière les USA, mais on est encore devant le Brésil, l'Argentine et la Chine, qui sont pourtant des pays gigantesques qui se développent à fond. On reste la deuxième puissance agricole.
Et avec un modèle industriel traditionnel assez salissant.
Voilà, exactement. Donc, malgré ça, on est très loin de l'autonomie alimentaire. On exporte ce qu'on produit et on importe ce qu'on consomme. Ça, c'est très grave. Un exemple, on a 7 jours d'autonomie alimentaire à Paris. Le moindre blocus sur les ports du Havre, etc., c'est la révolution à Paris. Et je parle que de Paris. Cet hiver, il y a 2-3 mois, il y a eu des tempêtes de neige en Normandie qui ont tout bloqué. Et ça commençait déjà à craindre pour l'approvisionnement des supermarchés à Paris, quoi. Donc ça, on a rien trouvé. Quand on demande aux politiciens, ils nous disent qu'on a des programmes, on va créer des programmes alimentaires en Afrique pour relancer leur économie et reconstituer nos stocks, parce qu'on a plus de stocks de nourriture, hein, comme on avait.
Tout est un flux tendu, en fait.
Tout est un flux tendu, exactement. Et pourtant, on a les produits sont soumis au bilan carbone maintenant, et on sait que c'est les circuits courts, comme on dit, sont préconisés. Et pourtant, ça a du mal quand même à démarrer. Alors après, il y a aussi tout le thème de la malbouffe, de l'alimentation. Hippocrate disait « ton alimentation est ton premier médicament ». On sait que la malbouffe peut être une source de problèmes. Et ça nous mène bien sûr à l'agriculture biologique, qui est critiquée aussi souvent, mais n'empêche que c'est quand même vital, quoi.
Donc Jacques, si je devais résumer ta pensée, il est important de se réapproprier notre autonomie, soit par le logement, soit par une espèce d'autarcie alimentaire vivrière, pas pour l'exportation, mais vraiment pour la consommation locale, circuit
exactement.
Court, etc.
Exactement.
Et une vie simple. C'est très baba bio, ça.
Mais ça peut paraître baba bio, mais peut-être que ça deviendrait très vite quelque chose de naturel avec des papilles. Moi, je verrais bien. Moi, j'ai une idée utopique, mais pas tant que ça. Ça serait donc de réquisitionner les terres, comme je dis dans ma chanson. C'est plus ou moins obligé par des lois, les mairies doivent mettre à disposition des terrains communaux pour développer un peu plus ces jardins. Ça se fait de partout. Ça se fait à Marseille, ça se développe partout.
Par des réquisitions, mais c'est un argument presque révolutionnaire, ça.
Obliger les mairies à donner des terres à leur population pour que les gens créent des jardins et soient un peu plus autonomes en nourriture. Et et je pense que ça créerait du lien. Et moi, je verrais bien des papilles et des jeunes et des arabes et un peu tout mélangé dans ces jardins pour avoir un peu plus d'autonomie alimentaire et puis peut-être aller un peu moins au supermarché. Puis de toute façon, peut-être que ça deviendra vital plus vite que prévu et qu'on sera obligé d'y venir. On a des belles terres en France, on a vraiment de quoi développer tout ça, quoi. Il y a des pays qui n'ont pas tout ça et qui le développent beaucoup mieux que nous, quoi.
Très bien, Jacques. Pourquoi pas ? Je suis pour une vie plus simple, donc j'entends bien qu'effectivement, on a tout intérêt de raccourcir les circuits et de proposer aux gens d'être autonomes. Maintenant, là où je te suis moins, c'est... Enfin, en tout cas, il faudrait vraiment une prise de conscience collective et de nos hommes politiques. On a nos hommes politiques qu'on mérite, dit-on. Mais pour que, effectivement, au niveau réquisition de terres, ce genre de projet passe. On a eu des révolutions pour moins que ça. Hein. En 1917, quand il y a eu la révolution en Russie, la masse des révolutionnaires, bon, il y avait certains ouvriers... en Russie, mais il y avait aussi tous les moujiks et les paysans qui en avaient marre de pas avoir de terre et qui ont dit ouais, on prend ces terres. Et résultat, voilà ce que ça donne. Faut faire attention aux arguments très radicaux dans lesquels on dit voilà, il nous faut ça, ben on n'a qu'à le prendre. Il y a quand même des propriétaires à ces terres, non, n'est-il pas ?
Non, c'est des terrains communaux. Les terrains communaux nous appartiennent. Non, moi je parle que des terrains communaux.
Ah d'accord, j'avais compris que tu voulais nationaliser et réquisitionner les terres agricoles.
Les terrains communaux qui appartiennent aux mairies et à l'État, parce que l'État est propriétaire aussi des forêts domaniales, etc. On pourrait quand même, ou au niveau d'un département, où on peut trouver des solutions, je sais pas. C'est pas, moi je vais obliger personne, je sais pas pour... C'est sûr que faire une loi pour obliger une mairie à donner des terres, mais enfin, quelle mairie n'a pas de terres qui peuvent être mises à disposition à sa population pour créer des jardins? On n'a pas besoin de milliers d'hectares non plus. Hein. On met un hectare à disposition. Déjà, un potager d'un hectare, ça fait beaucoup, quoi. Donc on n'a pas besoin non plus d'énormément de terres, mais on... Juste de la possibilité de pouvoir le faire, quoi.
Va demander à tous les jeunes agriculteurs qui cherchent des terres si c'est facile de trouver de la terre et on en reparlera. Peut-être quand même, parce que la terre, c'est un bien effectivement précieux. Il y a une pression dessus, hein, en plus avec les constructions. Tous les ans, je crois qu'il y a un certain pourcentage non négligeable de terres agricoles qui disparaissent.
Oui.
Soit par les routes, les rocades, soit par les lotissements, soit
par la pression immobilière. Voilà. Alors c'est surtout ça. Ça, c'est la pression immobilière. C'est l'immobilier, et notamment dans nos régions, dans tout le sud-est, de tout le sud de la France en général, qui est pris par l'immobilier et l'extension des plans d'occupation des sols dans les mairies pour étendre les zones constructibles. Et c'est là que petit à petit, les terres disparaissent, quoi. C'est sûr, hein, c'est là-dessus qu'il faut... C'est plutôt bien là-dessus, contre ça qu'il faut lutter, hein. Cette pression immobilière, quoi. Et au plus on va vers le sud, la Côte d'Azur, etc., et au plus c'est difficile, quoi.
Très bien, Jacques, je suis content d'avoir parlé avec quelqu'un aussi. Qui parle avec le cœur. Donc, ce serait mieux si on pouvait effectivement manger nos propres légumes, être entre nous et danser, etc., autour d'un feu. Ce serait tellement plus sympathique.
C'est imagé, mais bon, je veux pas trop passer pour un baba cool, c'est pas le but de ma chanson. Mais voilà, moi je verrais bien autour du feu, comme je t'ai dit, des papis et puis un peu tout le monde, quoi. Voilà, et puis j'espère qu'on y arrivera. J'ai tellement de choses à dire que c'est un tel plaisir de parler avec toi, Louis, que écoute, je crois que je reviendrai.
Bah, la radio est ouverte à tous, hein. Tu me donnes l'occasion de rappeler ça à tous les habitants du Diwa, voire de France et de Navarre. C'est que le chemin de la radio est ouvert à tous les gens qui veulent s'exprimer. Donc tu t'es exprimé aujourd'hui, Jacques, et je te remercie d'avoir osé franchir notre porte.
Super, ben merci beaucoup. Et merci à Radio Diwa.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Interview. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.